Nous allons ce matin lire un texte un peu long, tout un chapitre, pardon, du livre des Actes, le chapitre 10. Donc, Actes au chapitre 10. Je n'ai pas trouvé pertinent de couper ce récit, très riche. Alors, juste pour vous situer, nous sommes en Judée au 1er siècle, peu de temps après la mort de Jésus, et l'Église s'organise, et Pierre joue un rôle particulier, le disciple de Jésus, Pierre joue un rôle particulier, et c'est un épisode où il joue le premier rôle. Il y avait à Césarée un nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, en vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il le fixa et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon appelé Pierre. Il loge chez un autre Simon qui est tanneur, dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses domestiques et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit en terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande toile tenue par les quatre coins qui descend et s'abaisse jusqu'à la terre. Il y avait là tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, abat et mange. » Pierre répondit « En aucun cas, Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la deuxième fois, la voix lui parle. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. » Cela se produisit trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé au ciel. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après s'être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Il y a là trois hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation. Car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes « C'est moi que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous ici ?» Ils répondirent « Le centurion Corneille, un homme juste, craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. » Alors, il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait pas dire d'aucun homme il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu, sans aucune objection. Je vous demande donc, pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Corneille dit, « Il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi, à la 9e heure. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et il a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appelé à Joppé, Simon, surnommé Pierre, il loge dans la maison de Simon, le tanneur, au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un, et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour t'entendre, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors Pierre prit la parole. En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était ainsi répandu sur les non-juifs, car il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te prie que tu nous parles à travers ta parole. Je te prie que tu prépares nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et même les moins de 30 ans, j'ai des doutes. Entre 1996 et 1999, j'entretenais une relation amoureuse. Ma fiancée habitait loin, de l'autre côté des mers, en Angleterre. Internet en était à ses balbutiements. On y avait accès en utilisant les salles en libre service de l'université. Et il n'y avait pas d'appli WhatsApp ni de Skype. Et téléphoner en dehors du territoire coûtait cher. Et pour ménager nos budgets d'étudiants, nous avions résolu de nous appeler un samedi sur deux pendant une demi-heure. Du coup, ce sont des dizaines et des dizaines de lettres qui ont traversé la Manche, permettant à Diane et moi de construire notre relation. le courrier était finalement ce qui nous semblait le plus pratique, même s'il nous fallait attendre 5-6 jours pour recevoir la réponse de l'autre, mais nous n'étions pas limités dans la taille de nos conversations. C'était le meilleur moyen que nous avions trouvé, et aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'il n'y avait pas mieux. Il faut voir le bon côté des choses, ça laisse de bons souvenirs, auxquels Diane et moi aimons repenser. Ça donne aussi des histoires à raconter. Mais si je vous parle de ça, ce n'est pas par nostalgie, mais c'est pour illustrer que quand certains changements interviennent, il devient difficile d'imaginer les choses telles qu'elles étaient avant. Les nombreuses transformations technologiques traversées ont fait oublier la réalité de ce temps, à mes yeux, pas si reculée que ça. Et dans le récit que nous avons lu, il y a un changement de cet ordre. Au début du récit, il n'est pas naturel pour Pierre et Corneille d'être ensemble, de passer un moment ensemble, de discuter. Et Pierre l'explique avec ce qu'on a lu au verset 28. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. C'est interdit. Il n'aurait pas dû être là. Il n'aurait pas dû échanger avec lui. Cette conversation n'aurait pas dû avoir lieu. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Et à la fin du récit, des païens sont convertis. Ils sont accueillis dans l'église par le baptême. Et c'est le début de quelque chose, d'un mouvement sur lequel on ne reviendra pas en arrière. C'est un changement irrémédiable. Et je crois que pour nous, qui avons toujours connu cet état de l'Église, où tout le monde a accès à l'Évangile, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu en être autrement avant. L'histoire d'un grand changement, donc. Et ce qui me surprend dans le récit que nous avons lu, c'est de voir à quel point Dieu prend les choses en main. Et Pierre et Corneille sont finalement spectateurs de ce qui leur arrive. On commence avec la vision de Corneille, qui voit un ange apparaître, et il ne sait rien d'autre, il n'obtient aucune autre information que celle qu'il envoie chercher quelqu'un qui s'appelle Pierre. Il n'a rien de plus, mais il obéit immédiatement. Il envoie chercher Pierre. À une cinquantaine de kilomètres de là, à Joppé, Pierre a une vision. Il a faim, il est midi, la sixième heure, et du coup, il se pose la question, est-ce qu'il est en train de délirer parce qu'il a trop faim? Mais trois fois la vision revient pour ne lui laisser aucun doute. Vision, il invite à se nourrir de ce qui lui est présenté, bien que ce soit des animaux impurs. Il était interdit de manger dans la loi. Cette loi juive, il suit. Il est perplexe, mais il reçoit cet ordre de suivre ceux qui l'accompagnent, ceux qui viennent le chercher. Il apprend qu'il va se rendre chez quelqu'un de bien, un homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage. Et on ne sait pas plus, mais il part avec eux. Et quand ces deux-là se rencontrent, 4 jours plus tard, le temps de faire l'aller-retour, ils ne savent pas pourquoi ils sont là ensemble. Alors, Corneille a un mouvement de s'agenouiller devant Pierre. Pierre lui dit « Non, ça ne va pas le faire, je suis un homme comme toi. » Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est comme si, ensemble, ils essayaient de reconstituer un puzzle dont ils avaient une partie des pièces seulement. Pierre commence, il explique qu'il est là par obéissance. Dieu lui a dit de suivre ceux qui venaient le chercher, il les a suivis. Alors, pourquoi l'a-t-on envoyé chercher ? Corneille sort une pièce. Je t'ai envoyé chercher parce que on m'a demandé de le faire. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Alors, Pierre sort une nouvelle pièce du puzzle. Il partage l'évangile et en même temps, il partage l'évangile. J'ai pas l'impression que ce soit un exposé très apologétique qui cherche à convaincre. Hein. J'ai l'impression qu'il réfléchit en parlant sur la place, le rôle des juifs, le rôle des non-juifs. Voilà. Il parle de ça. Ils sont là à tâtonner, à essayer de reconstituer le puzzle et le Saint-Esprit intervient. C'est le Saint-Esprit qui avait le plan du puzzle. Il descend sur Corneille et les siens et ils sont remplis de l'Esprit. La plupart du temps, on ne voit pas le Saint-Esprit agir. L'Esprit, quand il vient dans quelqu'un, c'est une force invisible qui travaille à l'intérieur des croyants. Mais là, Dieu a voulu qu'il soit visible. Et c'est pour ça qu'il donne ce signe du parler en langue. Ceux qui reçoivent l'Esprit parle en langue, et là, Pierre reconnaît. C'est la même chose qui s'est passée à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Il n'y a aucun doute, le Saint-Esprit est rentré dans ces personnes. Pierre n'a plus qu'à se rendre à l'évidence. Dieu accepte aussi les païens dans son royaume. Le salut, il est pour tous, pour eux aussi. Et eux aussi peuvent entrer dans la vie nouvelle par l'Esprit. Alors, il les baptise. Il les baptise pour signifier leur entrée dans l'Église. Voilà pour le récit que nous avons lu. Il y a trois grandes leçons que je retiens, trois paroles clés dans ce passage. La première, c'est ce que Dieu dit à Pierre, on l'a lu au verset 15, ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. Dieu a purifié des choses qui n'étaient au départ pas pures, des aliments. Le temps utilisé, c'est un temps du passé, ils ne sont pas purs, maintenant ils le sont. Dans d'autres versions, on a ce que Dieu a déclaré pur ou ce que Dieu a rendu pur. Quand est-ce que Dieu a fait cela ? Si on lit dans l'évangile de Marc au chapitre 7, il y a un événement avec des éléments et l'évangéliste rajoute à la fin de ce que dit Jésus, il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Jésus a déclaré que tous les aliments étaient purs. Désormais, celui qui les voit comme impurs les souille. Ils ne sont plus impurs par eux-mêmes. Mais c'est le regard que peut porter Pierre ou que peut porter quelqu'un qui les regarde comme impurs, qui les rend impropres à la consommation, qui les rend mauvais. Et souiller, c'est une faute. Aller contre la volonté de Dieu qui déclare pur, c'est un péché. Dans le doute, on aime être prudent. Dans le doute, abstiens-toi. Sauf que dans ce cas, c'est aller contre la volonté de Dieu. Il faut rentrer dans son mouvement et avancer. La deuxième parole qui me semble importante, c'est celle que Pierre dit lorsqu'il arrive auprès de Corneille. En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Pierre comprend. Il comprend que cette histoire d'aliments, c'est pour parler d'autre chose. C'est pour parler des hommes, ce qui est bien plus important. Et il comprend que Dieu n'est pas partial. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas les uns plus que les autres. Il faut bien le comprendre. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu choisit ceux qu'il désire sauver. Paul le dit dans Éphésiens au chapitre 1, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Mais le choix que Dieu fait porter sur ceux qu'il sauve ne se porte pas sur tel ou tel groupe humain plutôt qu'un autre. Il veut, c'est encore l'apôtre Paul qui parle, il veut que tous les hommes soient sauvés. On pourrait penser en lisant le récit que c'est là une découverte pour Pierre. Je ne le pense pas. Je me souviens de ce que Jésus a invité de faire de toutes les nations des disciples avant de monter. Et Pierre l'a entendu, mais il n'avait pas encore compris les implications pratiques de cette parole de Jésus. Dieu n'est pas partial, Dieu ne fait pas de préférence. Et la troisième parole qui me semble importante, c'est celle que Pierre prononce à la fin du récit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Le baptême, c'est l'entrée dans l'Église. Ceux qui ne sont pas baptisés sont en dehors de l'Église. Ceux qui sont passés par le baptême sont dedans. Quand l'Église baptise, elle reconnaît du baptisé qu'il est chrétien, à 100%, comme les autres. Peut-on refuser? Demande Pierre. La question, il l'adresse aux frères qui sont venus avec lui, des chrétiens qui sont venus de Joppé avec lui et qui l'accompagnent. Peut-être qu'il est plus convaincu qu'eux et qu'il veut les convaincre. Peut-être qu'il a des doutes. En tant que leader, il prend ses responsabilités, mais quand même, il s'ouvre à leur avis. En tout cas, la question montre la démarche. Par défaut, l'attitude est prudente, mais si le Saint-Esprit va plus loin, comment refuser de le suivre et d'entrer dans son action? En fait, le Saint-Esprit met la pression sur Pierre. Va-t-il aller dans son mouvement? Va-t-il le suivre? Le baptême est nécessaire, l'action du Saint-Esprit n'est pas suffisante, il faut que l'Église reconnaisse plutôt entérine l'action du Saint-Esprit. Elle n'est, si vous comprenez bien, l'Église n'est pas au-dessus du Saint-Esprit, mais elle doit le suivre, elle est obligée de le suivre. Dieu a décidé d'agir dans ce monde par l'Église et ne pas suivre le mouvement de l'Esprit s'apparenterait à un refus de suivre Dieu. Voilà. Voilà cet épisode avec ces paroles importantes, et Pierre, donc, qui se met à la suite de ce que lui montre le Saint-Esprit. Je le disais, l'Église ne sera plus jamais comme avant. En rentrant, Pierre a eu quelques difficultés à Jérusalem, où on lui a demandé de se justifier. Il dira la même chose que ce qu'il dit ici. Si Dieu leur a fait, à ceux que nous avons baptisés, le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Ça a occupé l'Église pendant quelques décennies. On en trouve des traces dans les épîtres, l'épître aux Galates en particulier. Mais l'Église ne sera plus jamais comme avant. Et nous? Que faire de ce texte? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Que faire de ce texte? Est-ce que nous devons le mettre dans un cadre, le poser au mur et le regarder comme un souvenir pour l'intérêt historique qu'il a sur l'histoire de l'Église? Je crois que si on s'arrêtait à ça, on passerait à côté de quelque chose. Je crois que nous avons plus à apprendre de ce texte. Je pense déjà, premièrement, qu'il peut nous inviter à vivre dans la reconnaissance. Souvenons-nous que nous n'étions pas destinés à faire partie du royaume de Dieu. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas juifs, nous n'étions pas de ceux qui sont purs, et si les choses avaient continué ainsi, personne ne nous aurait parlé du salut en Jésus-Christ. Mais Dieu, qui ne fait pas de favoritisme, a mis les choses en place pour nous atteindre, pour nous toucher, pour que nous soyons sauvés. Et certains parmi nous peut-être sont juifs, mais je pense qu'ils ont bénéficié du ministère de non-juifs qui les ont évangélisés, qui les ont enseignés, de telle sorte qu'aujourd'hui, eux aussi sont redevables de cet élargissement voulu par Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. L'Église n'est pas pour tel ou tel groupe ethnique, telle ou telle nationalité, pour tel ou tel niveau social, pour telle ou telle origine familiale, ni pour tel ou tel sexe. Tous sont accueillis et nous pouvons tous être reconnaissants. Tous sont accueillis et je crois qu'il y a aussi une corollaire, c'est que nous ne sommes pas plus légitimes qu'un autre pour appartenir à l'Église, ou l'Église n'appartient pas à moi plus qu'à un autre. Ce n'est pas parce que nous sommes là depuis longtemps, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de chrétiens, que nous avons plus de droits. Et ce n'est pas parce que nous sommes jeunes convertis qu'il faut faire profil bas et attendre. Nous avons, avec l'accueil que Dieu fait à toute l'humanité, nous avons un encouragement, nous-mêmes, à accueillir largement, y compris ceux qui ne sont pas comme nous. Donc c'est une façon de mettre ce texte en pratique. Mais je crois qu'il y en a une deuxième aussi et qui touche plus directement à notre pratique. Et je ne vous cache pas que ce texte m'est venu en tête alors que je réfléchissais à un débat qui préoccupe quelques-uns, la place que la femme peut occuper dans l'Église et au ministère qu'elle pourrait exercer. Vous connaissez le débat. La position traditionnelle tend à limiter la place de la femme et elle ne peut avoir accès à certains ministères, en particulier les ministères d'enseignement et de direction dans l'Église. Pour d'autres, en particulier dans notre fédération, nous adoptons une position d'ouverture. Je ne dirais pas que ce texte que nous avons lu parle du ministère des femmes et qu'il apporte la réponse à cette question. Ce serait un peu cavalier de ma part. Mais je crois qu'il nous fait réfléchir à notre attitude. J'aimerais reprendre le verset 34. En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Dieu n'est pas partial. C'est écrit, c'est clair en ce qui concerne l'entrée dans l'Église. Mais cette ouverture large se rétrécit-elle à partir du moment où on parle du service dans l'Église? Nous croyons que le Saint-Esprit accorde ses dons à chacun, selon son bon vouloir, pour l'édification de l'Église. À chacun, de la même façon que Dieu sauve ce qu'il a choisi, selon son bon vouloir, mais pas à tel groupe plus qu'à un autre. Cela, à mon avis, poserait problème. Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. Une chose très importante, c'est les premiers mots. Ce que Dieu a purifié, ce que Dieu. Souvenons-nous, mes amis, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui décide. Il ne s'agit pas de s'ouvrir à tel ou tel sujet parce qu'aujourd'hui, tenir une autre position dans notre société s'est dépassé. Il ne s'agit pas plus de refuser telle réflexion parce qu'il en a été toujours ainsi. C'est vers Dieu que nous nous tournons. C'est lui qui décide, c'est lui qui déclare. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Le sujet est compliqué. Certains théologiens pensent que le point le plus important sur ce sujet est ce que Paul a écrit à Timothée au chapitre 2, « Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » C'est un verset difficile, dans un contexte compliqué à étudier. Hein. Ça nécessiterait de le prendre entièrement, je ne le fais pas ici. Il me semble que ce verset vise un contexte ou introduit une exception, en tout cas, qui n'a pas porté de définir le grand message biblique. Je crois que le cas plus général du dessein de Dieu, on le trouve dans des passages comme dans Galates, au chapitre 3, où il est écrit « Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. » Dans l'Église, les anciennes barrières tombent. Juifs et non-juifs sont présents et peuvent tout faire. Il en est de même pour les esclaves et les hommes libres. S'ils restent esclaves dans le civil, dans l'Église, ils sont frères, ils ont la parole. Et il en est de même pour les hommes et les femmes, si dans leur mariage, ils ont des rôles différents. Dans l'Église, ils sont sur un pied d'égalité. Cette égalité n'est pas théorique, mais pratique dans ce que nous faisons, dans la façon dont nous servons dans l'Église. Si le Saint-Esprit nous donne les dons pour telle ou telle responsabilité, nous donne les capacités pour servir de telle ou telle façon, alors nous pouvons, et je dirais même plus, nous devons mettre en pratique les dons qui ont été reçus. On peut en débattre. Les théologiens évangéliques le font sans arriver à trancher. Mais je reviendrai au début de ce verset. Il est important de ne pas lâcher que c'est Dieu qui décide. La Bible a autorité. Il ne s'agit pas de chercher une nouvelle révélation, mais de répondre à la question. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? S'engager sur une route de changement fait peur. Nous pouvons avoir peur d'aller contre la volonté de Dieu. Et je crois que cette peur est bonne. C'est une crainte qu'il est bon d'avoir en nous. Ça nous fait prendre les choses au sérieux. Comment faire pour ne pas se tromper? Je crois que dans notre récit, nous avons une clé pour nous guider. Pierre et Corneille ont un point en commun. Ils prient. Tous les deux ont reçu leur vision alors qu'ils priaient. Le texte nous montre qu'ils prient à des heures fixes. Ils se souviennent à quelle heure ils prient, j'en suis sûr, régulièrement. Et ils ne prient pas de manière automatique ni dans un monologue, mais ils prient en étant attentifs à ce que Dieu a à leur dire. Et Dieu leur parle. Il l'écoute. Savons-nous écouter Dieu lorsque nous prions? Dans leur moment de prière, ils cherchent à écouter Dieu. Et dans ce qu'ils vivent, ils sont attentifs aussi à ce que Dieu a à leur dire, à comment il les guide. Relisez le récit. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont passifs et à l'écoute de ce que Dieu veut dire, en train d'observer ce qu'il est en train de faire. Prier, c'est leur garde-fou. Qu'il soit aussi le nôtre. Et puis, il y a le Saint-Esprit. peut-on refuser à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Le Saint-Esprit est là, il est présent, il est actif pour montrer en avance qu'il prépare les choses, qu'il les a préparées. Et il en est de même des responsabilités que nous confions aux femmes. Nous ne le faisons pas dans un souci de parité, parce qu'il y aurait des quotas à respecter. Non, nous le faisons comme tous les ministères, parce que nous reconnaissons que l'Esprit a équipé, donné les dons nécessaires pour la tâche à accomplir. N'est-il pas rassurant de savoir que pour vivre l'Église, nous ne sommes pas seuls, petite communauté isolée, essayant de comprendre la Bible, mais que l'Esprit est présent, qu'il conduit les choses, qu'il nous les montre. Et notre travail consiste à reconnaître son action et surtout ne pas lutter contre elle. Je pense que nous pourrions aussi élargir la réflexion. Il serait dommage de ne voir dans ce sujet que la question de la place de la femme dans l'Église et ne pas écarter à d'autres. Nous ne pouvons pas écarter d'autres chrétiens qui ont reçu l'Esprit, qui ont reçu des dons, parce qu'ils n'ont pas le même parcours que nous, parce que ils ne sont pas de la même ethnie, de la même nationalité, du même niveau social. Dieu a voulu que son Église soit riche de l'apport de tous ceux qu'il a choisis. Ne nous limitons pas. Ne soyons pas plus royalistes que le roi à faire un tri dans ceux qu'il a choisis. Au moment de conclure cette prédication, en conscience d'avoir abordé un point controversé, j'aimerais être prudent dans ma conclusion. Je crois que le récit d'Acte 10 nous montre le Saint-Esprit qui bâtit l'Église. Le Saint-Esprit qui est là et qui agit avant l'Église, et qui agit conformément à la parole. Et qui surprend l'Église, qui n'attend pas à ce que ça se passe comme ça. L'Église est là, à la suite de l'Esprit. On voit le Saint-Esprit qui n'attend pas l'Église, et heureusement, heureusement que le Saint-Esprit ne nous attend pas. Si Dieu nous attendait pour agir, où en serions-nous aujourd'hui? Je crains que nous soyons encore une petite Église de quelques milliers de membres à Jérusalem. Alors, recevons cette invitation à suivre l'Esprit pour aller dans la vie d'Église riche qu'il a prévue pour nous. Ne nous affranchissons pas des garde-fous qu'il nous a donnés, de la Bible, qui reste notre référence. Et également de la prière, par laquelle il nous parle et qui nous garde de partir dans une fausse direction. Et par-dessus tout, entretenons la reconnaissance de ce qui nous a accueillis, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre condition sociale ou notre sexe. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as donné une grande responsabilité à ton Église de continuer à vivre après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous guide et qui bâtit l'Église. Et Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous aides à le suivre fidèlement pour entrer dans ton action. Transforme-nous pour être de plus en plus semblables à ce que tu attends de nous. Nous sommes là, devant toi, à ton service. Utilise-nous, Seigneur. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.